Et vous le savez maintenant, le mardi, dans la dernière partie de l'EM, on vous propose le plateau des marottes. Le mardi, c'est marottes. Les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous, des idées de sortie dans le Finistère. Aujourd'hui, au micro, il y a Davy Andrazik qui nous donne des nouvelles d'une compagnie de théâtre de Brasparts et de son nouveau tiers-lieu, si on peut dire. Il y aura aussi Tristan Legros qui va nous présenter la 21e édition du festival Longueur d'onde de la radio. De la radio et de l'écoute à Brest. Et je mettrai d'ailleurs mon grain de sel aussi dans ce sujet du son. Bonjour à tous les deux.
Salut Véro, salut Tristan.
Salut.
Bon alors, ouais, on avait reçu quelque part en novembre dernier la compagnie Méharé. Hein. C'est une compagnie des arts et spectacles, hein, du côté de Brasparts.
Et oui, parce qu'en Centre-Bretagne, il y a des compagnies de théâtre.
Il y en a plein.
Plusieurs, oui, c'est ça.
Il y en a plein.
C'est génial.
Et donc, Emmanuela Anelli et Alain Mahé sont les fondateurs et ils avaient partagé avec nous deux projets qui se recoupent un petit peu et qui, par le fruit du hasard, ont presque le même nom. Figure-toi, ça s'appelle La Baraque et Baraka. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait de cette interview.
Pour découvrir déjà qui sont Méharé, c'est
oui,
ça.
Exactement.
Méharé, c'est le nom d'un livre de Théodore Monod, dont on a repris le titre, pour lui donner le nom de notre association compagnie.
Ouais, c'était en 2003, déjà, et c'était pour la création d'un premier spectacle, avec donc une coopérative de tisseuses, la coopérative Nakasha de la bidonville de Salé au Maroc. Je parle de ça parce que c'est un peu la base un peu de Méharé, je dirais, un travail artistique souvent multidisciplinaire aussi, mais où chaque élément, chaque personne qui rentre dans ces projets, ces aventures, ils sont réunis pour un fond, une base, des questionnements sociaux, politiques, humains, qui nous attrapent et qu'on a envie de chercher et d'amener loin, ensemble. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de frontières entre différentes médias et personnes, quoi. Voilà, et c'est un peu la caractéristique, je dirais, de Méharé depuis donc ses débuts jusqu'à maintenant. On a essayé toujours de construire, de collaborer avec les associations locales, avec les personnes, avec les artistes, les artisans, enfin, c'était
l'école.
Tout, les écoles. Donc tout ça s'est construit et c'est même, ça nous paraît même nécessaire et fondamental, en fait, de construire avec,
ouais,
les structures. Il y a vraiment des liens à faire et chacun, enfin, c'est la force un peu d'ici, justement, chacun apporte sa propre couleur ou savoir-faire, si on peut dire, ou approche, ou pensée, et puis ça se construit ensemble. Baraka, c'est un nom italien, Alain, tu pourras...
Ah oui, ça veut dire baraque.
C'est un rapport avec le second projet ou pas?
C'est un hasard heureux, je dirais.
Ah ouais,
en fait,
un signe.
En fait, oui, c'est ça, j'avais été présenté Baraka à Rennes, et on m'avait dit qu'en fait la baraque Dromesco était disponible parce qu'en fait Dromesco arrêtait le cirque Dromesco, le théâtre Dromesco. Théâtre Dromesco m'a proposé la baraque, en fait, la baraque Dromesco. Et j'ai dit, on a réfléchi un petit peu quand même, parce que c'est un bon bâtiment de 10 mètres sur 20, 6 mètres au faîtage. De l'amener dans les Monts d'Arrée. C'est une baraque foraine, donc qui s'est déplacée dans toute l'Europe pendant une trentaine d'années.
Elle va accueillir Baraka.
Voilà,
elle va accueillir Baraka, ouais, c'est le lien.
En fait, c'est à voir aussi, parce que la baraque, je raconte souvent, il y a une expression en italien, on dit fare baracche burattini. En italien, ça veut dire faire baraque et, si on veut dire marionnette, enfin, ça ne veut rien dire si on traduit comme ça. Donc normalement, les marionnettes, c'était des petits baraques, donc des petits caissons qui se déplaçaient de village en village. Je m'inspire souvent de Fagiolino, qui était une personne simple aussi du peuple, et qui disait un peu ce qui se passait réellement, sans trop, enfin, de manière naïve, mais en même temps, un peu, en essayant quand même de dire un peu qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va. Et un jour, il semblerait que dans un village, ils sont arrivés, sauf qu'ils ont dit des choses peut-être un peu trop fortes. Donc les gens du village, ils ont pris la baraque et i burattini, donc les marionnettes, et ils ont jeté tout, clac, au fleuve. Donc il y a des choses qui nous pèsent, et qu'on a envie peut-être de, aussi, nous aussi, comme d'autres, hein, d'essayer de pousser, pour essayer de mettre peut-être du bon sens, ou de raisonner ensemble, ou de lancer. Donc voilà, c'est une baraka. Donc voilà, on est arrivé à ce projet qui est centré fondamentalement sur quelque chose qui est, je dirais finalement, un fil conducteur de mes arrêts, mais un peu plus spécifique. La nécessité de la diversité du vivant dans toutes ses formes.
Oui, mais alors, donc j'ai pas compris un truc, Davy, c'est cette baraque, elle existe là, c'est ça?
Oui.
Donc c'est une baraque foraine, ça, c'est un truc qui se démonte facilement, c'est
alors,
ça?
Alors voilà, c'est une baraque foraine qui fait environ 200 mètres carrés, hein, 20 mètres sur 10, c'est une structure...
Et quand même.
Ouais.
C'est gros.
C'est ça, c'est gros, ouais. C'est une structure métallique avec des panneaux en bois pour faire les murs et t'as une espèce de bâche, un petit peu comme tu dois avoir dans les cirques, pour faire la toiture. Donc, je sais ce que tu vas me dire, c'est pas vraiment super pour l'hiver, mais justement, elle est pas vraiment prévue pour accueillir des choses en hiver. Ce sera plutôt, tu vois, pendant la période estivale, ce genre de choses.
Elle est plantée où ? Elle est plantée à Brasparts.
Alors voilà, là, elle est arrivée à Brasparts. Elle est sur le terrain de la compagnie Méharé. Donc ils ont fait des travaux de terrassement. Ils sont en train justement de la rénover. Il y a 35 000 euros à mettre dedans. C'est pas rien. La remise aux normes avec accès PMR et tout ça. Donc ils ont déjà commencé à réunir quelques fonds, ils ont des aides de la région, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'ils ont ouvert une petite cagnotte sur Hello Asso, où tout le monde peut mettre ce qu'il veut, comme il veut, pour pouvoir leur donner un petit coup de main.
Donc, Méharé, ça s'écrit M-E-H-A-2-R-E. Ça fait un jeu de mots avec les monts d'arrêt aussi, hein, tant
ouais,
qu'à faire.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc c'est la compagnie, et ce projet-là, ça sera ouvert... qui voudra, c'est ça enfin...
Alors, ouais, c'est ça, ce sera ouvert à qui voudra. On pourra avoir des expos, on pourra aussi avoir des... qu'est-ce qu'on pourra avoir ?
Des spectacles,
bah, oui, un spectacle. Et justement, ils vont commencer avec leur spectacle
à, courant, eux.
Voilà, ouais. À eux, qui s'appelle Baraka, qui a un petit peu en rapport avec tout ça. Et ce sera au courant mi-mai. Voilà, ça devrait ouvrir à peu près à cette époque-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire là-dessus ? En plus, il y aura une programmation qui est déjà un petit peu établie, qui va vachement te plaire, puisque je crois que c'est le 20 mai, il y a Alain Mahé et le plasticien Vincent Fortan qui préparent un truc en lien avec le Centre d'art contemporain du Morbihan et les archéologues qui bossent sur le site néolithique du département. Il y a une rencontre de prévu avec les archéologues. Ah, tu me regardes ?
Si il y a l'archéologie, c'est forcément bien.
Ben ouais, ouais. Mais je peux pas t'en dire plus parce que c'est top secret. Moi, je sais tout, mais toi, tu sauras.
Ah, d'accord. Bon, il faut attendre le 20 mai, c'est
ça ? Ben ouais, à peu près le 20 mai, ouais, c'est ça.
Eh bien, on y reviendra. Merci, Davy.
De rien.
On va quitter le centre Finistère, on va monter vers le nord, à Brest même, où le festival Longueur d'onde de la radio et de l'écoute commence demain. En fait, il a même un petit peu commencé. Tristan Legros va nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut dire, Tristan, de ce festival, pour les gens qui ne connaîtraient pas ?
Longueur d'onde, c'est, donc tu l'as dit, le festival de la radio et de l'écoute. C'est une manifestation culturelle dédiée à l'écoute, au mode d'expression radiophonique sous toutes ses formes. Il cherche à faire découvrir les dessous du monde de la radio, faire découvrir ce média à tout le monde, le mettre à l'honneur, quoi. Il s'étale sur 5 jours, du mercredi 29 janvier au dimanche 2 février à Brest, dans différents lieux dont le Quartz et l'Auditorium des Capucins.
Et il y a des conférences, il y a énormément, le programme est très dense. Hein.
Ouais, c'est ça, très éclectique, très pluriel. Il y a des séances d'écoute par exemple, des tables rondes, des débats, des concerts, des performances. On peut y écouter des podcasts, y entendre des auteurs, des autrices, des journalistes, des gens de radio, des créateurs sonores de manière générale.
Ouais, c'est ça qui est bien dans ce festival, c'est que toutes les dimensions du son sont représentées. Toi Tristan, qu'est-ce que tu as repéré ? Tu vas aller voir certaines tables rondes plutôt, je crois.
Oui, moi je vais assister à 3 tables rondes et rencontres, plutôt autour de thèmes, autour des enjeux écologiques parce que ça m'intéresse. Donc il y en a une qui s'appelle les guerres de l'eau, enjeux d'écologie. Ça sera autour de la préservation de l'eau, de son accaparement, son partage, sa durabilité. Et ça sera animé par Christophe Levisage, Rémi Dibowski et Cléa Chakraverty.
Mais qui est une adhérente de la radio.
Et oui,
au passage, coucou Cléa.
Ouais. Je vais aussi assister à celle d'Inès Leroux, qui s'appelle Omerta dans les champs. Elle reviendra sur le système agroalimentaire breton, sur lequel elle a enquêté, notamment autour de l'industrie porcine et des algues vertes. Mais je vais aussi assister à une rencontre entre Maxime Massé, journaliste à Libération, spécialisé dans la couverture de l'extrême droite et auteur, et Jean Lebrun, journaliste et animateur de radio, notamment à France Culture. Donc la rencontre s'intitule « L'extrême droite a-t-elle gagné la bataille culturelle sur Internet ?» Ça sera autour du livre Pop Fascisme, écrit par Maxime Massé et Pierre Plotu, et publié aux éditions Divergence. Donc, dans ce livre, ils analysent la manière dont les idées d'extrême droite raciste, nationaliste, identitaire, fasciste ont imprégné Internet, devenu un médium d'expression parallèle, au service de leur diffusion, leur banalisation, avec un recours notamment au code de la culture populaire. Ils montrent aussi comment cela favorise l'accession de ces thèmes dans les médias dominants, notamment ceux détenus par Vincent Bolloré.
Pour ne citer personne, bien sûr.
Je ne connais pas, moi.
On voit bien que, donc, toi, Tristan, ce qui t'intéresse, c'est les débats de société. Donc voilà, ça, c'est un des aspects du festival Longueur d'onde. Alors, c'est vrai que c'est souvent très, très intéressant. Hein. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce festival, c'est découvrir justement ce que je ne pratique pas, tout le son. La forme sonore que je pratique pas, parce que ça, les débats, bon bah oui, on en fait. Hein. Je vais même être invité à un débat, je vous le dis quand même. Si vous voulez, si vous vous posez la question de savoir si les radios associatives sont vraiment des radios qui donnent la parole au terrain, eh bien Pierre-Yves et moi-même tenterons de répondre à la question samedi après-midi à la Méridienne du Quartz à partir de 15h. Enfin, il y aura d'abord un sujet sur les musiques, la découverte musicale par les radios associatives, et après ça sera plutôt sur les émissions comme on fait nous.
Pas une séance de dédicace ou pas?
Ben non, j'ai rien à dédicacer du tout. Je pourrais écrire sur les mains si vous voulez. Alors, sinon, donc les créateurs sonores, moi j'aime bien aller voir les créateurs sonores. Vous avez par exemple Pascal Rueff qui donne une conférence sur la poésie et les archives. Le sous-titre, c'est Tchernobyl, Lilo Blaireau, Jacques Prévert, les bagnoles et ma fille. Donc ça vous dit un peu. En fait, Pascal Rueff, il va parler de son travail d'archives, de captation sonore, notamment en 3D, et de la manière poétique dont il s'empare des récits, des sons, des endroits qu'il explore. Donc ça, c'est un exemple. Ça sera demain matin à 10h30 aux ateliers des Capucins, parce que quand même, le festival Longueur d'onde a lieu donc surtout au Quartz à Brest jusqu'à dimanche, mais il y a aussi quelques rendez-vous hors cadre, donc notamment au Capucin. Le festival propose aussi des performances sonores, tu l'as dit, hein, Tristan, et il y en a une qui a retenu mon attention, ça s'appelle Covadis, d'Adila Benenjadizou et Clémence Grosse. C'est samedi à 18h, c'est à la Méridienne du Quartz également. On pourra aussi écouter des œuvres dans des conditions d'écoute évidemment excellentes avec le système Dolby Atmos. Tu vois ce que c'est, David?
Oui.
Ouais. Ça marche pour les jeux vidéo aussi, parce que c'est utilisé dans le cinéma, enfin,
ouais,
en tout
dans,
cas. Ouais.
Dans le jeu vidéo aussi récemment. Ouais,
d'accord.
Ouais,
donc on est vraiment immergé dans le son, c'est ça.
Ouais, bien équipé. Il faut être bien équipé par contre. Hein.
Bon alors d'accord, bah on pourra. Oui, il faut amener son casque. Ils disent qu'il faut amener son casque parce qu'il y a du Wi-Fi, mais ils fournissent pas les casques. Mm-hmm. Et on pourra par exemple écouter une œuvre qui s'appelle Feu NM. C'est un hymne en hommage au feu. Et donc c'est de Norbert Vallée, Raphaël Cousseau. On peut aussi aller dehors. Alors là, c'est vraiment le contraire du Dolby Atmos. Là, on suit une balade sonore, le PASS, parcours audio sensible, d'un artiste que moi je suis depuis longtemps, qui s'appelle Gilles Malatray. En fait, vous venez, il faut être une vingtaine de personnes, on s'inscrit, on vient et on va découvrir une ville, un quartier, à l'oreille, juste à l'oreille nue, c'est-à-dire pas de casque, pas de micro, pas d'intermédiaire, et on fait vraiment attention au son, au sens sensible, esthétique, à l'écologie sonore, l'immersion. Et puis on en parle, j'imagine, après. Enfin, donc là, ça sera dans le quartier Saint-Martin, en groupe de 20 personnes. C'est sur réservation, c'est peut-être complet, hein, samedi matin. Et on peut aussi rencontrer Gilles Malatray pour discuter de son travail. Là, ce sera vendredi, en début d'après-midi, au Quartz. En plus de l'art sonore, il y a la fiction, que moi j'aimerais bien pratiquer, mais je n'ai pas le temps encore de pratiquer. Là, vous pourrez suivre par exemple la séance d'écoute de Führer, c'est une fiction fantastique de Mehdi Bayad, c'est l'un de mes auteurs préférés, enfin, il fait vraiment des fictions sonores formidables. On a d'ailleurs diffusé une de ses œuvres l'été dernier sur cette antenne. On pourra aussi écouter par exemple La Chute de Lapinville, c'est un feuilleton qui est presque mythique maintenant d'Arte Radio. Un autre avantage de Longueur d'onde, c'est qu'on peut aussi découvrir des métiers liés au son et des métiers très spécifiques qu'on ne connaît pas forcément. Alors par exemple, j'avais pu rencontrer il y a quelques années, en 2019, l'audionaturaliste Fernand de Roussin. On va écouter un extrait de l'interview.
Un audionaturaliste, c'est la personne qui parcourt la nature, enfin en général ce qu'on appelle nature, parce que nature c'est un peu tout, hein. Un chat c'est un nature, un bouquet de fleurs c'est nature, je dirais le monde sauvage, voilà. On parcourt le monde sauvage avec nos microphones et on enregistre tous les sons qu'émet le monde sauvage, que ce soit des animaux, que ce soit des éléments naturels, que ce soit le paysage et toutes les interactions qu'il y a avec. Alors, la différence entre l'audionaturaliste et le bioacousticien, elle est majeure. L'audionaturaliste travaille sur l'art des sons de la nature, sur la qualité artistique des sons, alors que le bioacousticien va travailler sur la science des sons de la nature, sur sur le fondamental, sur qu'est-ce que veut dire un son par rapport au comportement, enfin voilà, au comportemental. Alors que l'audio naturaliste cherche la beauté du son de la nature et cherche les interactions presque musicales en fait entre les animaux et entre le paysage.
Mais vous n'êtes pas pour autant un field recorder, enfin, ou alors si, mais d'un genre spécifique.
Ouais, bah, on met tout dans field recording, c'est vraiment c'est un fourre-tout, un field recorder.
Field recording, enregistrement de paysage sonore, quel qu'il soit, pas forcément sauvage.
Je ne me détermine pas du tout comme field recorder. Le field recorder recherche à enregistrer du son, la matière sonore. Moi, je cherche à enregistrer la vie. Je cherche à enregistrer des animaux, des interactions qu'il y a entre eux et la beauté de ce que le monde sauvage peut nous offrir à écouter. C'est toute la différence. Le field recorder va utiliser sa matière pour en faire des œuvres de composition. Moi, je vais faire la même chose, mais uniquement avec des sons de la nature, sans les transformer. Il n'est pas question de les transformer. Il y a bien sûr du tuilage dans les montages, parce qu'on est obligé de raccourcir le son, enfin les sons et les ambiances, mais il n'y a pas du tout de transformation du son pour en faire autre chose, ou pour le mélanger à autre chose, ou ainsi de suite.
Et surtout par rapport, parce qu'il y a des paysagistes sonores qui gardent tout et qui ne travaillent pas trop leur matière finalement, mais vous, comme vous êtes audio-naturaliste, vous allez aussi fuir tout ce qui est artifice, enfin son d'origine humaine du coup.
Voilà, tout ce qui est humain en fait ressort. Nous, l'audio-naturaliste va chercher la matière première d'avant l'humanité quelque part, même si c'est complètement faux, parce que l'homme a une telle interaction sur son milieu naturel depuis 20 à 30 000 ans qu'énormément d'espèces ont déjà disparu, d'ambiance, enfin de milieu. Mais on essaie quand même, dans la mesure du possible, de retrouver une espèce de virginité du son, enfin de ce qui était le son, et qui a évolué en fait au cours des millions d'années. Il ne faut pas oublier que la musique humaine a 40 à 50 000 ans, les sons de la nature sont une évolution de 350 millions d'années. Donc on est dans deux thèmes différents. On ne peut pas comparer l'un et l'autre.
Et même dans votre carrière, qui est quand même assez longue, mais qui n'a pas 350 millions d'années, est-ce que vous avez quand même vu évoluer le son de la nature ?
Bah, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne prend le son de la nature que pour détente, relaxation, enfin dans ce sens-là. On ne prend pas le son de la nature comme un message, comme un langage. Pour moi, les sons de la nature sont un langage comme une langue parlée, sauf qu'elle ne se parle pas directement, mais elle se comprend. C'est une langue que l'on comprend. C'est la langue de tous les animaux qui, en interaction, eux-mêmes se comprennent. Hein, dans tout ce qui se passe dans les comportements, il y a toujours des interactions entre espèces. Nous, malheureusement, on a perdu cette écoute. Alors, je dis toujours comme ça que un peuple autochtone, enfin les peuples premiers, quand ils disparaissent, leur voix et leur langage disparaît avec. Nous, on a l'impression qu'on n'entend plus la nature. Pourtant, elle est là. Elle n'a pas disparu. Et les sons de la nature sont encore là. Il suffit d'ouvrir ses oreilles.
Oui, mais il y a peut-être quand même des espèces qu'on n'entend plus ou qu'on entend beaucoup moins. Enfin, si vous, par exemple, vous travaillez régulièrement sur un même endroit, ça ne bouge pas trop ça, ou est-ce que quand même il y a des sons qui disparaissent, comme l'avait constaté, Bernard Crozes?
Oui, il y a une évolution, c'est certain. Il y a une énorme évolution, notamment dans les campagnes. Les campagnes deviennent silencieuses de plus en plus, parce que les pesticides, ils sont pour vraiment beaucoup, hein, notamment chez les insectivores, qui souvent sont des très bons chanteurs, enfin les plus beaux chanteurs. Par contre, en ville, les espèces qui restent, c'est-à-dire qui se sont adaptées à l'homme, qui sont adaptées au parc, au jardin, à la ville, elles sont en train d'augmenter. Et c'est presque en ville qu'on a les plus beaux chorus maintenant. Vous voyez, je fais la différence entre chorus et concert, ou même si je dis parfois la grande symphonie du vivant, parce que je trouve que ce terme est très joli, mais en fait, quand je parle d'ambiance nature, je parle de chorus. Pour moi, c'est un cœur général entre les animaux, les éléments et le paysage. Écoutez nature, audiophonie hivernale. L'installation pour la nuit d'un hydrophone dans une mare ici en Plaine des Morts peut réserver parfois de nombreuses surprises. En cette fin de janvier, avec une température relativement douce. C'est une grenouille agile qui chante sous l'eau à partir de 3 heures du matin. Elle est accompagnée d'insectes aquatiques et le tout compose ainsi une ambiance digne d'une soirée d'été. Et ça vaut bien 5 minutes d'écoute.
Oui, nous aussi, on aimerait bien avoir des hydrophones à transistor, mais on n'en a pas. Hein. On n'a pas assez de sous. Fernand de Roussin, si vous voulez écouter ce qu'il fait, ben, ce qu'il a fait, c'est la sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour l'essentiel, c'est lui. Donc voilà, là, je l'avais rencontré à longueur d'onde. C'était en 2019. Et puis, j'avais aussi interviewé avant encore un bruiteur de Radio France, assez connu, Bertrand Amiel. C'est son boulot. Il fait les bruitages, notamment de tout ce qui est fiction sonore. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est au festival Longueur d'onde. C'est à Brest, essentiellement au Quartz, mais pas seulement. Et c'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Tristan.
Merci.
Et j'ajoute aussi qu'en ce moment, c'est la semaine du son. Alors ça, c'est une manifestation qui est encore plus ancienne que Longueur d'onde, qui a été inventée en France. Et cette année, elle est en partenariat avec l'UNESCO. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que la plupart des rendez-vous sont concentrés dans la capitale. Voilà, mais c'est pareil, bon, c'est le moment de s'interroger sur notre rapport avec le son, à savoir le son comme à la fois comme nuisance, hein, comme bruit, pollution sonore, dans quel monde bruyant on vit, et puis en même temps, tout ce qu'on peut faire avec le son, tout ce que ça nous apporte aussi en termes artistiques ou même l'archéologie sonore. Vous pouvez découvrir l'archéologie sonore, c'est très intéressant, c'est reconstituer des ambiances sonores, et notamment à Notre-Dame, il y a un travail qui a été fait avec un archéoconcert, un concert en fait qui a été donné à plusieurs étages, enfin, ça a donné lieu à un documentaire. Du 12e au 20e siècle, on peut entendre les différentes acoustiques qui sont succédées à Notre-Dame en écoutant l'œuvre, en même temps l'œuvre musicale. Voilà, bon, allez, je vous dis au revoir, on va s'arrêter là. Hein. C'était le LEM.
Salut,
merci.
Véro.
À bientôt.